Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Les cultures des jeunes sont complexes mais passionnantes. Benoît XVI s'est adressé aux participants de l'Assemblée plénière du Conseil pontifical pour la culture qui se penche sur les cultures des jeunes. L'art et la foi ont souvent entretenu des relations fécondes. Preuve en est faite de nouveau avec une exposition au château Saint-Ange à Rome consacrée à Saint-Pierre. L'occasion pour le cardinal Bertone et secrétaire d'État du Saint-Siège de parler de la foi utile à toutes les sociétés. La communauté Sant'Egidio fête ses 45 ans, autant d'années passées au service des plus pauvres, de l'écuménisme et de la paix en Italie, mais aussi à travers le monde entier. Monseigneur Morero, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, interdit ses églises à la fraternité sacerdotale Saint-Pilis, une décision prise après avoir constaté que le dialogue entre l'église et la fraternité s'était dégradé. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Alors que le Conseil pontifical pour la culture se retrouve ces jours-ci pour sa réunion plénière, le pape a reçu jeudi matin ses participants et les a entretenus sur le thème de leur symposium « Les cultures émergentes des jeunes ». Une réalité que Benoît XVI a aussitôt qualifiée de complexe et articulée, qui ne peut plus être comprise à l'intérieur d'un univers culturel homogène, mais bien dans un horizon multiforme, déterminé par une pluralité de visions, de perspectives et de stratégies. Le contexte culturel pour le pape est toujours plus fragmenté et en perpétuelle évolution, et il faut y voir l'influence des médias sociaux, nouveaux instruments de communication qui favorisent et provoque même d'incessants et rapides changements de mentalité, de mœurs et de comportement. Le compte-rendu de Bernard de Cotigny.
Benoît XVI aborde d'abord la face sombre de ce climat diffus d'instabilité culturelle, mais aussi politique et économique, qui a surtout des conséquences au niveau psychologique et relationnel. L'incertitude et la fragilité qui touchent tant de jeunes souvent les poussent à la marginalité, les rend quasi invisibles et absents des processus historiques et culturels des sociétés, et souligne le pape, parfois cela débouche sur la drogue, la déviance, la violence, la sphère affective et émotionnelle, tout ce qui concerne les sentiments et le corps sont fortement soumis à ce climat, entraînant des phénomènes apparemment contradictoires, comme la mise en spectacle de la vie intime et personnelle et une fermeture individualiste et narcissique sur ses propres nécessités et intérêts. Même la dimension religieuse, l'expérience de la foi et l'appartenance à l'Église sont souvent vécues dans une perspective privée et émotive. Mais le pape voit aussi des phénomènes véritablement positifs. Ainsi, les élans généreux et courageux de tant de jeunes volontaires qui se consacrent à leurs frères, les expériences de foi sincères et profondes de tant de jeunes qui témoignent de leur appartenance à l'Église, les efforts pour construire en de nombreux endroits du monde, des sociétés capables de respecter la liberté et la dignité de tous, en commençant par les plus faibles et les plus petits. Une réalité complexe donc, mais fascinante, reconnaît Benoît XVI, qu'il faut comprendre et aimer avec empathie, une réalité dont il faut suivre les développements. Sans oublier de prendre en compte les jeunes de tant de pays dits du tiers-monde, ils représentent avec leur culture et leurs besoins un défi à la société de consommation globalisée, à la culture des privilèges acquis pour un cercle restreint de la population occidentale. À cela, le pape ajoute l'urgence éducative et professionnelle, car si les jeunes n'espéraient plus ou ne progressaient plus, n'offraient plus leur énergie, leur vitalité, leur capacité à anticiper le futur, nous nous retrouverions avec une société repliée sur elle-même et privée d'un discours positif sur l'avenir.
Hier, à l'issue de l'audience générale, le pape a reçu les membres de la fraternité de Saint-Charles-Borromée, 18 prêtres venus de différentes missions à travers le monde, ainsi que le nouveau supérieur de la fraternité, le père Paolo Sottopietra. Benoît XVI a souligné que cette fraternité, fondée en 1985 et reconnue comme société de vie apostolique de droit pontifical en 1999, a grandi, signe que les vocations existent. Le pape en a profité pour réaffirmer la nécessité de trouver, d'accompagner, de guider et d'aider les vocations à mûrir. Le but de cette fraternité, que le pape connaît bien depuis ses débuts, est en effet de former les jeunes à la mission. Présents également à l'audience générale mercredi matin, les membres de la délégation kazakh présents à Rome depuis mardi pour célébrer les 10 ans de la fondation du Congrès des leaders des religions mondiales et traditionnelles. Ils ont été reçus ensuite au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux avant de se rendre près du Vatican à une réception présentant une exposition de photos qui commémore les 10 ans de ce congrès. Parmi les personnalités présentes, de nombreux diplomates bien sûr, mais également le doyen du Sacré Collège, le cardinal Sodano, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, le cardinal Toran. Ce fut l'occasion alors de souligner les bons rapports qui existent depuis 20 ans entre la République du Kazakhstan et le Saint-Siège. Signe de ces bonnes relations, les visites effectuées en 2001 par Jean-Paul II à Astana, en 2003 et 2010 par les cardinaux Sodano et Bertone, et récemment, septembre dernier, par le cardinal Sodano de nouveau, qui s'est rendu cette fois à Karaganda pour la consécration de la nouvelle cathédrale. Autre preuve de l'amitié qui lie les deux États, le cardinal Toran et le cardinal Laiolo, ainsi que Mgr Akashé du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, ont été décorés par la République du Kazakhstan. L'art a souvent été le champ d'expression de la foi depuis des siècles. Exemple en est donné avec une exposition au Château Saint-Ange, à deux pas du Vatican. Exposition consacrée au chemin de pierre, qui nous présente à travers plusieurs peintures l'aventure humaine et spirituelle de Simon-Pierre. Lors de son inauguration, mercredi soir, le cardinal Bertone, secrétaire d'État du Saint-Siège, a livré une réflexion sur la foi. Thomas Chabol.
La foi n'est pas, a déclaré le cardinal Bertone, le résultat de notre raison, ni même un quelconque héritage qui nous a été transmis même au prix du sang. La foi est un don de Dieu, a-t-il expliqué, qui, si elle est vécue pleinement, n'abandonne pas l'homme dans une malheureuse condition de médiocrité. Le déferlement de la foi transforme le cœur humain et donne le courage de faire un saut qualitatif dans l'existence. Le cardinal Bertone a ensuite élargi son propos à la présence du christianisme dans les sociétés, remarquant que même les non-croyants savent que les efforts quotidiens pour bâtir une saine société trouvent dans le christianisme un allié tenace et fiable, et de poursuivre les démocraties du monde le savent aussi, même en se plaçant du point de vue purement laïque. Le secrétaire d'État du Saint-Siège explique ainsi qu'aucune société ne peut se tenir sans une alliance forte entre ses membres, faite de confiance réciproque, de liens, d'engagement pour la justice et de responsabilité qui se développe quand des valeurs fondées sur les instances de la raison sont partagées. Valeurs, souligne le cardinal Bertone, que la foi pourra illuminer et renforcer avec l'envie de construire et de reconstruire avec courage, de travailler avec honnêteté et d'aider les nécessaires, d'aimer, de générer des enfants et de se sacrifier quand cela est nécessaire, des valeurs enfin que la foi pourra illuminer et renforcer avec la force de reconnaître à chaque être humain une dignité inviolable que la foi chrétienne justement a mis dans le cœur de tous les peuples.
Thomas Chabol. Et pour celles et ceux qui ont ou qui auront la chance d'aller à Rome, sachez que cette exposition sur le chemin de Saint-Pierre se tient jusqu'au 1er mai prochain au Château Saint-Ange. Vous pourrez ainsi admirer des œuvres de Bruegel, de Veneziano, de Venusti ou de Reni, pour ne citer que quelques-uns des artistes présentés. Sant'Egidio célèbre son 45e anniversaire. À cette occasion, Mgr Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille, a célébré jeudi soir en la basilique Saint-Jean de Latran une liturgie d'action de grâce. Pauvres, prêtres de Rome et du reste du monde, évêques et cardinaux, représentants œcuméniques, tous étaient présents. Né dans le quartier de Trastevere, à Rome, en 1968, au lendemain du Concile Vatican II, la communauté est aujourd'hui présente dans près de 70 pays de divers continents. Elle représente un mouvement de laïcs auquel participent en tout plus de 50 000 personnes investies dans la solidarité avec les plus démunis, l'œcuménisme et l'évangélisation. Mais Sant'Egidio est également engagé en faveur de la paix. Elle a notamment joué un rôle déterminant dans la signature d'un accord de paix au Mozambique et assume actuellement le rôle de médiateur dans le conflit sécessionniste en Casamance. Mario Giro, responsable des relations internationales de la communauté, revient sur les moments forts de ces 45 dernières années.
Les moments les plus forts, c'est la découverte d'une autre Rome au départ, les premières années, une Rome cachée derrière les monuments, une Rome des pauvres, une Rome des immigrés. Avant, au départ, c'était des immigrés qui venaient du sud de l'Italie, puis au fur et à mesure, c'est devenu des immigrés qui venaient du sud du monde. Et la découverte de la planète Troisième Âge et la découverte du grand besoin qu'il y avait de reconstruire au jour, le tissu de l'amitié et de la sociabilité à l'intérieur des zones les plus défavorisées. Et cela se répercute dans chaque ville et village où la communauté existe aujourd'hui en 70 pays.
En 45 ans, comment avez-vous vu évoluer ce visage de la pauvreté ?
En 45 ans, nous avons vu que les visages des pauvres se sont multipliés, sont devenus pour nous notre famille. Et nous avons intégré dans cette famille l'Afrique, nous avons intégré dans cette famille les handicapés, les tziganes, probablement les derniers des derniers.
Sant'Egidio, c'est également un engagement en faveur du dialogue œcuménique et de la paix, de la résolution des conflits. On sait que la communauté a un rôle important, dernière médiation date en Casamance. En termes plus politiques ou diplomatiques, quelle est, entre guillemets, la plus grande réussite de la communauté ?
Je pense qu'on peut parler de la paix au Mozambique, qui est devenue un modèle de paix construite par la société civile, dont on parle dans les manuels sur la résolution des conflits aujourd'hui. Mais nous avons eu beaucoup d'autres opérations de ce type, plus d'une vingtaine, je pourrais dire, au fil des années. Mais là, le moment fort, c'est la découverte du grand monde à travers 86, la convocation que Jean-Paul II a fait des grandes religions pour prier pour la paix à Assise, qui nous a ouvert une grande fenêtre sur le monde.
45 ans après sa naissance, la communauté vient d'acquérir une nouvelle dimension avec un baptême du feu sur la scène politique. En montant en politique, pour reprendre l'expression de Mario Monti, la communauté ne risque-t-elle pas de perdre son autonomie, de s'éloigner de sa mission originelle ?
Je ne pense pas, ça ne concerne que l'Italie. Un moment très difficile, la naissance d'un gouvernement non politique, on dit ici technique, où le professeur André Riccardi a été appelé à recouvrir la place du ministre de la Coopération internationale et de l'intégration, des compétences presque cousues sur notre expérience. Il s'agit de remettre le pays sur pied d'un côté, mais aussi de soigner la maladie de la résignation et du pessimisme qui a provoqué un pays en morceaux, en situation qui, à un moment donné, semblait être grave et emporter toute l'Europe.
Sant'Egidio, c'est la preuve que la société civile peut changer les choses.
Tout à fait, je le pense fortement. Bien sûr, Sant'Egidio est expression de l'Église. La motivation qui est à la base de Sant'Egidio, c'est une motivation religieuse, une motivation évangélique, je dirais, pour être précis, mais nous travaillons dans la société civile et nous voyons les choses à partir des plus faibles et à partir des lieux de fracture de notre société.
Des propos recueillis par Hélène Destombes. L'Église est solidaire de tout le peuple tunisien qui souffre suite à l'attentat contre sa liberté son droit au pluralisme et à la dignité. C'est ce qu'a déclaré à l'agence Fides le père Jawad Alamat, directeur national des œuvres pontificales missionnaires de Tunisie. Il condamne ainsi le meurtre de Chokri Belaïd, le responsable de l'opposition tué mercredi dans une embuscade. Le prêtre décrit ainsi la réaction populaire au meurtre de l'homme politique. L'attentat est vécu comme une agression contre un peuple tout entier et non pas contre une seule personne. C'est ce que j'entends répéter par les hommes de la rue et dans les commentaires repris par les moyens de communication. Face aux manifestations en cours dans toute la Tunisie, le père Alamat affirme que les Tunisiens se trouvent face à un tournant peut-être plus important encore que celui du 14 janvier 2011 lors de la chute du président Ben Ali. Et pour en savoir plus sur cette crise qui secoue la Tunisie, je vous invite à vous retourner vers notre site internet www.radiovaticana.va. En Suisse, l'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg interdit l'accès de ses églises aux prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Monseigneur Charles Morero a publié ce décret le 20 janvier dernier, un décret qui s'applique également aux communautés non chrétiennes. Les catholiques chrétiens, les évangéliques réformés, les luthériens, les orthodoxes et les anglicans ne sont en revanche pas concernés. Monseigneur Morero rappelle que la fraternité Saint-Pie-X n'a pas de position canonique dans l'église, que ses ministres n'exercent pas de ministère légitime, et que donc, pour ces raisons, ils ne peuvent pas avoir accès aux églises et aux chapelles catholiques pour y célébrer la messe ou conférer des sacrements. Cette décision a fait pas mal de bruit en Suisse, pourtant ce n'est pas la première fois qu'une telle mesure est prise, comme nous l'a expliqué Mgr Morero, qui revient en outre sur la dégradation du dialogue entre les membres de la fraternité et l'église.
Ce qui m'étonne, c'est qu'on en parle maintenant parce que je l'ai publié moi, alors qu'en fait ce décret a été préparé par la conférence des évêques, en septembre 2011, alors que je ne faisais pas partie de la conférence. Je l'ai donc trouvé prêt, quand je suis arrivé, et la conférence a dit que les évêques pouvaient décider individuellement de publier ou non. Ce qui fait que l'évêque de Sion et l'abbé territorial de Saint-Maurice ont publié ce décret en janvier 2012, et l'évêque de Bâle et l'évêque de Saint-Gall début février 2012. Quand on pense que le siège de la fraternité Saint-Pie-X se trouve le diocèse de Bâle et leur séminaire d'économie le diocèse de Sion. Je suis surpris qu'il n'ait manifesté aucune réaction. Il y a plus d'une année, le même décret a déjà été publié là-bas, qui d'ailleurs ne faisait, pour ce qui concerne la fraternité Saint-Pie-X, rien d'autre que prendre la même position que les normes précédentes qui dataient de 1999. Donc il n'y a vraiment rien de nouveau dans cette question. Quant à moi, j'ai attendu une année avant de le publier, parce que j'espérais voir l'évolution du dialogue. Et je dois dire que j'ai été déçu par l'évolution du dialogue.
Pourquoi exactement? Qu'est-ce que c'est le problème, en effet, que vous soulignez concernant ce dialogue entre l'Église catholique et la fraternité?
Eh bien, Mgr Fouillet, le 28 décembre 2012, au Canada, à Nuremberg, il va dire que le Vatican n'accepte pas le dialogue avec eux parce qu'il est noyauté par des groupes de juifs et de francs-maçons qui ont toujours été les ennemis de l'Église. Je me dis que c'est profondément irresponsable de dire une chose pareille. Non pas seulement parce que c'est une critique très dure vis-à-vis du Vatican, mais aussi parce que ce genre de propos sur les juifs, vraiment, on aurait dû apprendre à partir de l'histoire à s'en abstenir. Et la position de Vatican II concernant le judaïsme et les visites de Jean-Paul II ou de Benoît XVI à la Grande Synagogue de Rome, qui ont toujours été critiquées d'ailleurs par la fraternité Saint-Pie-X, montrent une autre image de nos rapports avec le judaïsme. Et moi, je ne veux pas, dans une église catholique, des prêtres qui se présentent comme catholiques aillent dire que les juifs sont des ennemis de l'Église.
Des propos recueillis par Mario Galgano de la rédaction germanophone. Foi et religiosité dans une Europe qui change, les nouveaux mouvements chrétiens en Europe, défis ou opportunités. Ce fut le thème de la rencontre entre le comité conjoint du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, CCE, et la conférence des églises européennes, la CEC. Rencontre qui s'est tenue du 4 au 6 février à Varsovie, en Pologne. Les participants y ont analysé le défi posé aux églises chrétiennes par les groupes et les mouvements religieux situés en dehors du courant majoritaire des églises. Il semble d'abord nécessaire de faire la différence, ont-ils noté, entre les communautés avec lesquelles il est souhaitable d'établir un dialogue et de se rencontrer, et celles qui requièrent au contraire une prudence particulière. Autre préoccupation particulière, celle qui découle de la situation des migrants qui ne se sentent pas à l'aise dans le courant majoritaire des églises européennes et qui rejoignent l'un ou l'autre de ces nouveaux mouvements religieux. Les membres du CCEE et de la CEC ont également parlé de l'urgence de l'évangélisation. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de votre attention, merci surtout de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.